Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Clap. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Clap, c'est l'émission qui vous raconte le cinéma, mais surtout qui vous incite à y aller, en tout cas, je l'espère. Alors je vous préviens, c'est un Clap très riche cette semaine. On a beaucoup de choses à vous dire, plusieurs coups de cœur à défendre et deux grandes actrices qui seront à mes côtés dans quelques instants. Dans la première partie, nous reviendrons sur un petit bonbon, une véritable bouffée d'air frais, le feel-good movie par excellence, c'est Aline. Et oui, vous en avez sans doute entendu parler. J'aurai le plaisir de recevoir l'actrice-réalisatrice Valérie Lemercier qui a mis dans ce vrai faux biopic inspiré de la vie de Céline Dion, comme elle le dit, tout son grand corps et tout son petit cœur. Et je rajouterai tout son immense talent. Ça donne un film sincère qui va beaucoup vous plaire. Et puis comme chaque semaine, Didier Alouche, notre correspondant aux États-Unis, nous livrera son JT d'Hollywood. Nous reviendrons également sur la sortie du film My Son, remake par lui-même de Mon Garçon, le thriller de Christian Carion. À 14h40, une grande actrice viendra dans notre studio. Elle a joué des centaines de personnages au cinéma depuis ses débuts. Toutes sortes de femmes aussi passionnantes les unes que les autres. Nathalie Baye est mon invitée et reviendra sur la sortie de Haute Couture, le film de Sylvie Ohayon, dans lequel elle incarne une couturière première d'atelier de la Maison Dior qui va prendre sous son aile une jeune délinquante jouée par Lina Koudry. Un film sur la transmission très touchant.
Ce que tu es en train d'apprendre, c'est un métier. Ça vaut tous les millions de la Terre. Un métier que tu pourras transmettre. C'est ça la vraie richesse.
Enfin, en dernière partie, avec mes acolytes critiques, nous reviendrons sur l'actualité du cinéma. Une actualité assez chargée cette semaine, avec notamment la sortie des Olympiades de Jacques Audiard ou encore d'Albatros, le dernier film de Xavier Beauvois. Voilà pour le programme de votre Clap qui commence maintenant.
14h, 15h, Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
On parle comme chaque semaine dans cette première partie de Clap de l'actualité du cinéma et la grande actualité, c'est la sortie très attendue du vrai faux biopic Aline, inspiré de la vie de Céline Dion, qui sera en salle le 10 novembre. Valérie Lemercier réussit le tour de force de faire le biopic d'une personne toujours vivante mais sans faire de biopic, en passant par la fiction. On va en parler avec elle dans quelques instants. En tout cas, ça donne un film qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer. Bref, que j'ai adoré. Merci beaucoup Valérie Lemercier d'être avec nous cette semaine.
Merci Laurie, merci.
Alors déjà, comment vous vous sentez à quelques jours de la sortie d'Aline ?
Ben, j'ai hâte, j'en ai marre de montrer des photos à mes copains. J'ai hâte qu'ils puissent le voir en vrai.
Surtout que vous avez été très forte, il n'y a aucune image quasiment qui a fuité.
Ah ben non, pendant le tournage, on a été super chanceux parce que les figurants ont joué le jeu. Ils ont tous, personne n'a pris de photos, personne n'a... Mais voilà, moi j'ai hâte qu'ils sortent parce que... Voilà, j'ai hâte de passer à autre chose, j'ai hâte que les gens le voient, j'en suis contente, j'aime tellement faire découvrir ces acteurs québécois qui sont tellement bons, tellement drôles, tellement à fond, tellement... Voilà, donc j'ai juste, ce sera une libération, je pense, le 10 novembre pour moi. Que le film sorte.
Et appartienne enfin au public. Alors, on va rappeler que vous racontez la vie de Aline Dieu en utilisant des éléments de la vie de Céline Dion. Est-ce qu'on peut dire que vous avez fidèlement inventé ?
Ben, y a plein de choses qu'on a inventées, il y a plein de choses vraies. C'est un petit mélange. Il faut que ça ait le goût de... Comme le Canada Dry, faut que ça ait le goût de, le parfum de. Mais il y a des choses qui sont romancées, il y a des choses dans les dates... Par exemple, Pour que tu m'aimes encore est une chanson qu'elle chante après son mariage. Bah, pour ceux qui connaissent très très bien, moi je la lui fais chanter un peu avant. C'est sa façon, comme la chanson est tellement belle, c'est sa façon de dire au public qu'elle est amoureuse. Voilà. Mais il y a des choses inventées dans le temps et dans les faits et dans les personnages. Elle a eu 15 maisons, vous n'allez en voir que 3. Vous n'allez, voilà, il y a 14 frères et sœurs, on les voit, mais il y en a surtout un qu'on voit plus que les autres. Enfin voilà, il y a forcément faire un film, c'est choisir. Donc et puis moi, l'axe principal, c'était la grande histoire d'amour. Enfin, il y en a deux, la grande histoire d'amour avec sa mère et la grande histoire d'amour avec son manager et mari. Voilà.
C'est vrai que c'est ça qui est merveilleux dans le film, c'est que ce que je disais, on passe du rire aux larmes. Il y a beaucoup de bon, si on aime Céline Dion, évidemment, on retrouve les musiques, on retrouve la scénographie, tout ce qui fait rêver autour de Céline Dion, mais surtout la sincérité de cette histoire d'amour qu'on connaît tous.
Ben oui, et je pense que quand on est une... grande chanteuse ou pas une grande chanteuse, avoir un René à ses côtés dans la vie comme lui, c'est une bénédiction. Voilà, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, c'est le manager le plus célèbre du monde. Si vous allez voir dans les musées Grévin du monde entier, ils sont deux. C'est une chose qu'ils ont fait à deux. Il avait plus rien quand il l'a rencontré. Il a hypothéqué sa maison pour faire son premier disque. Ce que je veux dire, c'est que c'est la volonté des trois qui ont fait cette grande carrière. Voilà, et la grande histoire avec la mère, c'est qu'elle n'aurait pas dû naître. Et comme elle n'a pas dû naître, elle a fait encore plus pour elle parce qu'elle a voulu rattraper quelque chose qui n'aurait pas eu lieu. Et c'est pour ça la mère a une intelligence folle d'abord d'avoir fait toute cette famille, d'avoir bâti sa maison, d'avoir fabriqué la première chanson de sa fille. Enfin, tout ça est fou. Le destin est incroyable. L'histoire de cette famille est incroyable. Enfin, on démarre en 1932, donc on voit même les parents petits, jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est que
et le père moi, qui ne voulait pas d'enfants.
Le père voulait pas d'enfants et 14 enfants au Québec dans les années 60, c'est même presque une petite famille, mais quand on n'en veut pas du tout, c'est bizarre. Et cette petite dernière qui devait pas naître et qui naît quand même et puis qu'on garde et puis qu'on monte sur la table et qui chante pour tout le monde et qui a une voix d'or. Enfin, voilà, tout est fou, ce grand amour, cet amour unique aussi, c'est fou. D'en avoir eu qu'un, c'est fou. Donc, y a beaucoup de choses au-delà de son talent de chanteuse et tout ça, dans son histoire, dans son parcours de vie, la difficulté à avoir des enfants, les choix des chansons, la voix qu'il faut garder, voilà, c'est son outil de travail.
Bah comme, oui, comme
moi, quand je suis sur
précieux.
Scène, ça parle aussi forcément de la vie d'artiste que j'ai pu avoir pendant 30 ans. J'ai joué des milliers de spectacles, donc je sais qu'une loge, c'est moche. Je sais que quand on sort de scène, on est seul devant son bol de soupe, même si la soirée était chaude, même si les gens étaient debout. Voilà, c'est comme ça, c'est cette vie-là, c'est une vie beaucoup de travail aussi.
Oui, beaucoup de sacrifices.
On parle beaucoup de ça.
C'est un métier merveilleux, mais il y a beaucoup de sacrifices aussi, et puis on donne beaucoup pour son public aussi.
Ben moi, quand je me réveille le matin, quand je joue le soir, je ne suis pas là pour les autres. Je suis là que pour le soir. C'est-à-dire que toute mon attention est pour être la plus en forme possible, la plus forte, la plus concentrée, la mieux nourrie. Enfin voilà, on pense qu'à ça. C'est normal parce que on peut pas faire semblant d'être sur scène. Il faut y être à 2000%, comme dit Guy Claude, à 1000%. En tout cas, il faut être là. Faut y être. Donc, ça parle de ça aussi, de cette vie-là. Et les gens, ils disent toujours, mais t'en as pas marre de jouer 200, 400 fois le même spectacle? Ben non. Moi, j'en ai pas marre. En tout cas, j'en ai jamais eu marre, mais pour l'instant. Mais parce que chaque jour est différent.
Et chaque public toujours, la est différent, bien sûr.
C'est comme des fruits. Vous mangez des abricots, il y en a un très bon. Celui d'après, il peut être très bon. Et puis, tout à coup, on s'attend pas et il y en a un qui est dur. Et c'est ça le spectacle, c'est qu'il y en a trois très bons de suite, après il y en a deux mauvais, après les gens font pas toujours la... Et nous on le sait, il y a des jours magiques, d'autres moins, et c'est en ça que c'est beau aussi, c'est que c'est palpable, enfin voilà,
mais oui, ça se renouvelle tout le temps. On parlait tout à l'heure de votre casting qui est incroyable, entièrement quasiment d'acteurs québécois à part vous.
C'est ça, c'est pour ça que j'ai hâte qu'ils sortent, c'est que j'ai hâte que vous puissiez les voir, tellement ils sont bons,
oui,
tellement ils sont drôles, tellement ils sont beaux, voilà, ils sont super.
Dès le départ, vous aviez pris cette décision de prendre un casting québécois?
Pas dès le départ, mais très très vite, très très vite. Je me suis dit, imaginez 40 comédiens français en train d'essayer de faire lolo, pilo, pilo. Ça aurait été terrible, épouvantable. Et puis surtout, on les connaît pas, donc on y croit parce qu'on les a jamais vus. Donc on peut tout à fait s'identifier, tout à fait croire à cette famille parce qu'on les connaît pas. Après, j'ai fait des petits subterfuges, je leur ai mis mon grand nez, j'ai copié mon grand nez, j'ai fait un moulage et je l'ai mis à tous les pauvres frères et sœurs qui avaient des petits nez, ils ont dû avoir le mien. Les parents, quand ils sont jeunes, ils ont les nez de leurs aînés, voilà, pour qu'on ait l'air de se ressembler, parce que c'est ça, une famille aussi, c'est des gens qui se ressemblent, voilà, donc il fallait ça.
Et comment est-ce que les Québécois ont accueilli le projet? Parce que vous attaquez quand même à leur trésor national, c'est comme la famille royale, Céline Dion.
C'est leur reine, c'est vrai. C'est leur reine et Maman Dion aussi, c'est leur reine. Mmh. C'est les deux reines. De... Mais il n'est pas sorti au Québec. Il sortira à la fin du mois. J'y vais. Il y a eu quelques projections qui se sont très bien passées. Il tique un tout petit peu sur mon accent.
Charles que vous Bois, ne forcez pas, d'ailleurs.
Que je le fais très discret. Il m'a dit, tu ne l'as pas. Bon, tu ne l'as pas. Mais j'ai préféré pêcher en faisant moins qu'en faisant trop. Parce que je vous assure que je connais plein de gens autour de moi qui essaient de le faire. C'est pire que moi.
C'est donc, catastrophique. Quand on rate l'accent québécois, il n'y a rien de plus ridicule.
Mais il est très, très difficile à faire. Et puis aussi, les Québécois, je leur ai demandé de faire très light parce que il faut qu'on les comprenne. Nous, les films québécois, ils arrivent chez nous avec des gros sous-titres qui nous empêchent qui nous empêchent pas, mais je veux dire qu'ils nous, quand même, ça fait une barrière. Je trouvais ça important qu'on sous-titre pas ce film-là. Voilà.
Et c'est aussi
qu'on comprenne
la...
tout.
Ouais, mais la réussite de ce film, c'est qu'il est très sincère et qu'il est jamais dans la parodie, dans le voilà, vous l'avez dit, jamais on en fait trop en fait. C'est vraiment on se laisse embarquer par cette vie.
C'est-à-dire que moi, j'ai voulu tout le temps. Je me suis dit, pourquoi aurait-il des cols pelle à tarte plus grands que nous? Pourquoi la télé québécoise dans les années 80 aurait un son pourri? Pourquoi le piano sur lequel ils jouent quand ils arrondissent leur fin de mois, toute la famille, quand Aline a 4 ans, pourquoi jouerait-il? Ils sont tous bien, ils sont tous... Ce que je veux dire, c'est que il fallait... s'il y a des choses drôles dans le film, et il y en a, ça vient pas de la moquerie de quelque chose qui pourrait... Enfin voilà, moi, je les aime tous, j'aime cette famille-là. Je les adore ensemble. Et eux aussi, et ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas d'amertume, c'est-à-dire que ils voulaient tous être artistes, et il y en a quand même une qui a dépassé tous les autres, et ils sont heureux pour elle, et je trouve ça beau, et ils n'ont pas pris ombrage de ça. Et voilà, donc il y a évidemment plein de comédies dans le film, mais ça n'est pas de la comédie, ça n'est pas méchant. Ce que
non,
je veux
et
dire,
puis c'est aussi que Céline Dion est très drôle. Elle aime rire, et c'est le personnage aussi qui est comme ça.
Elle est drôle, elle a beaucoup d'autodérision. Elle fait d'ailleurs ce que j'adore quand je les vois, eux, René et Céline, c'est qu'elle le fait rire. Et ça, c'est tellement beau de les voir rire encore. Et je pense que dans un couple, si on continue à rire, c'est que tout va bien. Sinon, c'est horrible. Enfin, moi, pour moi, en tout cas, c'est fini, quoi. Quand on rit plus... Quand on rit pas déjà, c'est même pas la peine d'y aller.
C'est mal barré. J'allais dire, qu'est-ce que vous avez en commun avec Céline Dion? Évidemment, l'humour, déjà.
Ben, j'ai passé 30 ans de ma vie sur scène, même si c'était des salles beaucoup, beaucoup plus petites. Je viens d'une famille nombreuse et rurale, on jouait tous d'un instrument. J'étais pas du tout la jolie petite fille de l'école, bien loin de là. Je suis folle, même si j'ai moins de chaussures qu'elle, mais j'aime beaucoup la mode et les vêtements et tout ça.
Mais vous avez autant de classe.
C'est gentil, ça me fait plaisir.
C'est vrai, c'est sincère.
Mais je suis très proche de ma famille, de mes sœurs, il y a plein de choses qui sont, moi je n'ai pas d'enfants, il y a plein de choses qu'on a, mais il y a des petits points communs, même quand je vois des photos à tous les âges, enfin elle est un peu plus jeune que moi, mais des photos à certains âges, il y a des similitudes physiques aussi.
J'allais dire, vous êtes épatante dans la...
Mais j'ai quelques kilos de plus, quelques années de plus, et beaucoup moins de... Et je chante beaucoup moins bien.
Oui, alors justement, est-ce que vous chantez pas dans le film, je crois.
C'est pas moi, heureusement pour vous. c'est Victoria Sio qui chante et qui chante si bien. Et ça a été très compliqué de la trouver, mais on l'a trouvée. Et elle est incroyable.
En revanche, il y a tout un travail colossal sur la gestuelle, parce que Céline Dion sur scène, c'est évidemment la voix, mais c'est aussi cette présence scénique, cette gestuelle. Comment est-ce qu'on rentre dans le corps de Céline Aline? Parce que c'est quand même Aline,
je pense,
le personnage.
Simplement en la regardant beaucoup. À part River Deep Mountain High où on a travaillé un chorégraphe et des danseurs, donc là on a répété, mais sinon sans fausse modestie, je vous assure que je n'ai pas jamais travaillé ça. C'est venu tout seul. Ce que je veux dire, quand on passe un an jour et nuit à la regarder, à voir ses mains, ses gestes, ses jambes, ça ressort tout seul. Il y a des fois, vous savez, sur scène, j'ai déjà rencontré par exemple des gens 2 heures et ils deviennent un personnage d'un spectacle. Donc là, j'en avais tellement. Et puis, c'est des images accessibles à tous, que je conseille d'ailleurs à tout le monde de regarder, parce qu'il y a plein de choses passionnantes et intéressantes. Les voir, par exemple, tous chanter ensemble, tous les frères et sœurs sur les plaines d'Abraham, c'est tellement beau. Enfin, il y a plein d'images très intéressantes. Mais quand on la regarde bien, ben, on finit par... C'est le propre d'un acteur, c'est de regarder et de reproduire.
Et d'être invité.
Donc ça c'est venu vraiment tout seul. Et ce qui est marrant, c'est que les concerts les plus gros, c'est-à-dire tous les stades, je les ai faits avec zéro public du tout. Il y avait personne. Donc c'était simplement moi me remémorant et je la vois pas tant que ça. Moi je la vois, qu'est-ce que je pourrais dire, quelques secondes, une seconde par-ci par-là, j'ai l'impression que c'est elle, voilà. Mais juste un petit geste, un truc, hein, mais aussi nos mains sont pas complètement différentes. Enfin, il y a des et donc de temps en temps, par exemple quand on hésitait avec le monteur entre deux prises, elle me disait ça c'est plus Valérie et ça c'est plus Céline. Bah évidemment, je choisissais quand c'était plus elle. Mais à force de la regarder. Ouais, et puis de me mettre dans sa tête en fait, ou dans son corps, enfin j'en sais rien.
Bah
ou
les
de
deux.
Mettre tout mon petit dans les deux, de mettre. J'ai essayé d'y mettre dans ce film tout mon petit corps, tout mon grand corps et tout mon petit cœur, voilà.
Eh bah, ben vous l'avez bien réussi. Et quel serait le plus beau compliment que Céline Dion pourrait vous faire après avoir vu le film?
Ah là 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 là, je pense souvent à ce moment qui arrivera, j'espère un jour. Mais oh là là, je pense moi on me demande qu'est-ce que tu lui diras quand tu la verras. Je lui dirai qu'elle a des belles chaussures, puis après le reste viendra tout seul, je crois. Mais
je pense qu'elle vous dira merci après avoir vu le film.
Je sais pas, j'espère. j'attends pas forcément ça, mais. Non, mais si juste elle me dit « Ah, t'as pensé à mettre la bague à ce doigt-là, à ce moment-là. » Voilà, des petits moments.
Des petits détails.
Des petits détails où le bar que ses parents lui ont fabriqué, qui s'appelait le Vieux Baril quand elle était petite, j'ai réussi à trouver une photo où on voit c'est fait de plusieurs planches parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de sous pour faire ce truc. Donc, c'est des petits détails comme ça. J'espère que ça, elle le verra. Des petites choses, des toutes petites choses.
Ouais, elle y sera sensible, c'est sûr. Pour terminer, Valérie, votre chanson préférée de Céline Dion?
Je sais pas. Elle s'appelle Je sais
oui,
pas.
Oui,
chanson
oui,
que je
exact.
Oui.
Je la connais, parce que moi aussi, je suis fan de Céline Dion.
Ah, voilà. Et je crois que c'est aussi sa chanson préférée, elle. Ah,
voilà. Un autre point commun. Merci infiniment, Valérie Lemercier. Je rappelle donc Aline, c'est le film à ne pas manquer en salle le 10 novembre. C'est vraiment ce qu'on a besoin de voir en ce moment. C'est un film très réussi, ça fait longtemps qu'on en parle et moi j'ai hâte aussi qu'il appartienne au public parce que vraiment c'est un petit bijou.
Merci Laurie, merci, ça me
merci.
Fait très plaisir.
À très bientôt.
Je vous embrasse, à bientôt.
Nous aussi on vous embrasse.
Au revoir.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, c'est Clap qui continue et tout de suite on prend un avion direction Los Angeles à la rencontre de Didier Allouche pour son JT d'Hollywood. Salut Didier.
Salut Laurie, salut à tous. L'enquête avance sur l'affaire Rust, le tir accidentel qui a provoqué la mort de la chef opératrice Elena Hutchins sur le tournage d'un western au Nouveau-Mexique. Continue à secouer Hollywood et la thèse d'un plateau folklorique où aucune sécurité n'était observée semble s'éloigner. Alec Baldwin, producteur du film et auteur du coup de feu fatal, défend son équipe comme il peut, affirmant à grands coups de posts sur les réseaux sociaux et d'interviews télé que si le budget du film était très contrôlé, ils n'ont jamais rogné sur la sécurité. Une déclaration de toute l'équipe pour réfuter les rumeurs d'insécurité sur le plateau a fait le tour du web. Quant à l'armurière mise en cause, ses avocats jouent la carte du sabotage. Oui, c'est le mot qu'ils emploient. Bref, on ne saura pas tout de suite ce qu'il s'est vraiment passé sur le plateau de Rust, mais les conséquences de cette affaire se font déjà sentir à Hollywood. Les vraies armes à feu pourraient complètement disparaître du cinéma américain, remplacées par des flingues en plastique, les coups de feu étant rajoutés en post-production par des effets spéciaux digitaux. L'immense Dwayne Johnson vient d'annoncer qu'il n'utiliserait plus jamais de vraies armes à feu sur ses productions. Il n'est probablement que le premier d'une très longue liste. Et un papier lu sur le site du LA Times a exposé une autre conséquence, beaucoup moins grave, c'est vrai, mais quand même, qui a pu être constatée le week-end dernier. Dimanche, c'était Halloween, la fête des enfants, et la veille, les parents ont l'habitude d'aller faire la fête, eux aussi déguisés. Eh bien, le Los Angeles Times a recensé une demi-douzaine de ces soirées où les parents ont reçu, avant d'aller guincher, un email leur demandant de ne pas se déguiser en cow-boy pour éviter de rapper l'affaire et ainsi les mauvaises ambiances. J'adore cette ville. À part ça, lundi soir, c'était le début de Colcoa à la prestigieuse Directors Guild of America sur Sunset Boulevard. Colcoa, qui n'a rien à voir avec une boisson pétillante marron, c'est l'acronyme de City of Light, City of Angels, et c'est tout simplement le festival de films français le plus important d'Amérique. Une semaine de films made in chez nous à Hollywood que les Californiens adorent. Et lundi dernier, c'était jour de reprise pour le festival puisque l'édition 2020 a sauté because Covid. Une reprise en présence d'une délégation d'artistes français ravis de venir présenter leurs films de l'autre côté de l'Atlantique. D'autant plus que parmi les films sélectionnés, il y a certains des titres malchanceux de l'année Covid. Ainsi, Nicolas Maury a pu présenter pour la première fois son chouette Garçon Chiffon en vrai à un festival. Le film a pourtant été sélectionné dans plusieurs festivals, dont les plus grands, Cannes et Toronto notamment, mais c'était le Cannes 2020 qui n'a finalement pas eu lieu, et Toronto 2020, une édition totalement online. Donc, en foulant le tapis rouge de Colcoa lundi soir dernier, Nicolas était très ému, presque aux larmes. Des larmes de joie, heureusement, Garçon Chiffon fut l'un des gros succès de ce Colcoa 2021.
Merci Didier pour ces news et surtout rendez-vous la semaine prochaine. Alors je voulais vous parler d'un film européen, My Son, le remake par Christian Carion lui-même de son thriller Mon Garçon. Il avait dirigé pour Mon Garçon Guillaume Canet dans le rôle d'un père désespéré qui recherche son petit garçon enlevé lors d'un camp de vacances. Et bien dans My Son, il fait tourner l'acteur écossais James McAvoy face à Claire Foy de la série The Crown.
Vous êtes allé en Libye, en Irak?
Est-ce que vous avez des raisons de croire que c'est à cause de mon métier ce qui est arrivé à mon fils?
Nous envisageons toutes les hypothèses, y compris l'enlèvement.
Que tu as pensé une seconde au genre de père que tu as été pour ton fils?
Je suis un mauvais père, je sais que je suis pas présent. Je crois que j'ai trouvé une piste.
Alors un thriller haletant, une atmosphère pesante, et puis nous avons rencontré Christian Carion, le réalisateur, qui revient sur cette seconde expérience qu'il voit plus comme une envie de renouveler une expérience de cinéma plus qu'un remake. Écoutez-le.
Quand on fait le premier film, c'est quand même une façon de faire très spéciale, hein, de ne pas donner le scénario à l'acteur et tourner en 6 jours parce qu'on va très vite et qu'on ne fait pas de deuxième prise parce que par principe il sait. Vraiment, moi j'étais tétanisé par la trouille. Là, on l'avait déjà fait une fois, donc ça nous a donné plus de confiance. Donc je me donne... plus de choses de cinéma à faire dans ce projet que je n'en ai fait dans le premier.
Voilà, donc il avait envie de transposer cette expérience de cinéma, mais dans un autre pays, et c'est pour ça qu'il est parti tourner en Écosse avec l'acteur écossais James McAvoy. James McAvoy, d'ailleurs, quand on lui a proposé le projet, il n'a jamais douté de l'efficacité et du talent de Christian Carion. Écoutez-le.
Mon agent m'a dit qu'il allait avoir un remake d'un film français et que le même réalisateur referait son propre film. J'étais là. Quoi ? Puis elle m'a expliqué de quoi parlait le film et comment j'allais travailler le rôle. J'ai parlé à Christian Carion et je savais que je n'en avais pas besoin. J'étais sûr que le film allait être génial, donc je savais que je voulais le faire.
Et il a eu raison de le faire, ça donne My Son au cinéma actuellement. Un excellent thriller qu'on vous conseille et un film européen.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes toujours sur Europe 1 à l'écoute de Clap et j'ai le bonheur cette semaine d'avoir à mes côtés dans le studio une grande actrice, une femme qui nous fait rêver par la longévité de sa carrière, la diversité de ses personnages et surtout par la sincérité avec laquelle elle exerce son métier. Bonjour Nathalie Baye.
Bonjour.
Alors merci beaucoup d'être avec nous. On parle cette semaine d'un film que j'ai adoré, Haute Couture de Sylvie Ohayon, dans lequel vous jouez Esther, une première d'atelier au sein de la Maison Dior, qui va prendre sous son aile Jade, une petite délinquante qui lui a volé son sac dans le métro. Je voudrais savoir ce que vous avez ressenti quand Sylvie vous a fait passer le scénario.
J'ai d'abord un scénario, quand on a du mal à aller jusqu'au bout, c'est très mauvais signe. Oh, je l'ai lu attentivement et avec plaisir. Après, il y avait des choses, je trouve, qu'il fallait encore un peu retravailler et tout, et c'est ce qui a été fait. Mais c'est vrai qu'il y avait un vrai sujet avec des vrais personnages. et des choses qui me parlaient et qui me touchaient dans l'histoire du film, tout particulièrement la transmission.
Oui, parce que c'est vrai que c'est ça qui est magnifique dans le film. C'est finalement deux personnages qui sont très seuls, qui vont se retrouver. Et puis votre personnage aussi qui a comme envie de réparer aussi quelque chose qu'elle aurait mal fait avec sa propre fille.
Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, absolument. Et puis, en plus, je pense que les personnes qui sont très impliquées, qui aiment leur travail, qui savent que c'est un travail qui n'est pas banal, quoi, ils sont fiers et heureux de pouvoir transmettre et de voir que d'autres personnes, des plus jeunes, peuvent peut-être prendre le relais, etc. Il y a quelque chose de
passer le flambeau.
Ouais, de formidable là-dedans.
Qu'est-ce que vous avez aimé chez Esther et quel regard vous portez sur ce personnage ?
J'ai aimé sa rigueur, il y a quelque chose de double dans ce personnage-là parce qu'elle a quelque chose de elle est raide, elle est pas aimable toujours. Et puis de temps en temps, elle sort des gros mots, des machins qui sont très drôles. Elle a quelque chose de elle a en même temps un regard, une bienveillance et un œil comme ça qui chope les gens, etc. Enfin, c'est un personnage qui est très original, à vrai dire, et très touchant.
Très touchant. Elle a un besoin d'être aimée, finalement. Ouais. Elle est très seule.
Elle ne fait rien pour l'être. Hein.
Pourtant, oui, c'est vrai.
Ouais, elle ne fait rien pour l'être.
Si, puisqu'elle prend cette fille sous son aile, quand même.
Oui, mais ça passe par des turbulences.
J'ai retrouvé votre sac, je l'ai dans le métro. Tenez.
Tu sais qu'avec ses mains, tu pourrais faire des jolies choses.
T'es notre nouvelle stagiaire ?
Oh, c'est une bonne idée, ça, Gloria. Ma baby, j'ai rencontré une gamine. Je crois que je l'aime bien. Ma baby
don't care. Pourquoi tu fais tout ça ? Tu la connais même pas.
J'ai envie. T'as envie ? T'as envie de quoi ? J'ai envie d'être couturier.
C'est beau quand vous dites « je crois que je l'aime bien
». Oui, voilà, c'est ça. C'est ça que j'aime dans ce personnage, c'est qu'elle est... Elle a un côté vraiment raide et même parfois pas très sympathique. Et puis en même temps, c'est comme si elle cachait qu'elle avait du cœur. Et quand elle dit « je crois que je l'aime bien », elle ne va pas dire « je l'aime beaucoup » parce qu'elle a cette espèce de pudeur. Mais elle bidouille un peu avec ses mots. Oui, puis elle se cache un peu, quoi.
Mais elle s'est blindée aussi.
Ah, elle s'est blindée,
on connaît
ouais.
pas tout de son passé, mais ouais. c'est quelqu'un qui a souffert et ça se sent.
Ah oui. Elle a souffert. Elle a Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je suis passée par la danse. C'était mon premier métier. Et la rigueur de la danse classique, c'est hallucinant. C'est d'une violence, etc. Eh bien, Esther me rappelait les professeurs russes que j'ai eus quand j'étais danseuse. Parce que c'est ça, il y a derrière plein de belles choses, certainement, mais elles ne montrent qu'un côté, un gendarme. Elles peuvent nous humilier en public, elles peuvent... Voilà, il y a ce truc-là, comme ça, qui fait partie de l'histoire peut-être de la danse classique vue par les Russes, mais c'était très, très dur. Et Esther, elle a ce côté-là, quoi. Et on doit apprendre, mais c'est à la baguette.
Oui, et puis c'est vrai qu'on infiltre à travers ce personnage tout ce milieu, les ateliers de couture, la pression d'un défilé, la pression du styliste qui vient examiner les travaux finis. Elles n'ont même pas le droit de se piquer avec une aiguille, sinon elles peuvent tacher les tissus.
Ah oui, non, mais c'est un endroit où j'aurais du mal à travailler. J'aurais du mal à travailler dans un milieu comme ça. Mais c'est assez formidable de le découvrir dans le film et de voir comment... Parce qu'on voit toujours les belles robes qui sont la fin dans les vitrines et tout ça. Mais toute l'histoire d'une robe et tout ce qui se passe dans les coulisses, c'est assez passionnant.
Et puis ça rend un bel hommage à toutes ces couturières qui fabriquent du rêve.
Ah oui.
Vous connaissiez ce milieu, vous avez porté de belles robes, je suppose, pour tous les événements auxquels vous avez participé, mais est-ce que vous connaissiez vraiment le milieu de la haute couture ?
Non, pas particulièrement. Je le connaissais pour aller dans des grandes maisons, pour essayer des robes, comme vous dites, pour aller au César ou des trucs comme ça. Mais autrement, non, pas du tout. Et j'ai demandé si je pouvais assister aller dans les ateliers où toutes ces femmes travaillent. Et j'ai passé une journée et c'est étonnant, quoi. C'est vraiment elles sont sur leur travail, c'est d'une précision incroyable et c'est beau, et c'est très beau à voir, mais elles ont des journées qui sont pleines et très... Il faut une concentration et une habileté très, très exceptionnelle.
Alors, on disait, hein, vous avez une belle relation dans ce film avec le personnage de Jade, qui est joué par Lina Koudry, qui est une merveilleuse actrice.
Elle est formidable, Lina. Elle est formidable. C'est une actrice formidable et c'est une jeune femme formidable aussi.
C'est une belle rencontre.
Ah, c'est une très belle rencontre. J'ai eu énormément de plaisir à jouer avec elle. Elle joue vraiment avec vous. Elle ne triche pas. Elle est très sincère. Elle est très jolie en plus de ça, ce qui ne gâte rien. Donc, non, c'était un vrai bonheur. On s'est très, très bien entendu. On s'est amusé. Parce que parfois, il y avait des scènes quand même qui n'étaient pas toujours d'une grande douceur entre nous.
C'est vrai.
Et j'étais parfois confuse parce que j'ai donné deux ou trois fois des bonnes claques et tout ça. Mais non, on a eu un vrai plaisir à jouer ensemble.
Elle a eu un vrai coup de cœur pour vous. Elle dit beaucoup de choses très, très belles. Elle dit que vous êtes très humble, discrète et que vous cachez vos Césars derrière la bibliothèque. Est-ce qu'elle est venue chez vous pour travailler ?
Oui, c'est vrai.
Pourquoi ?
Oh, ben parce que, je sais pas, j'ai... Je vais pas mettre mes 4 Césars qui vont comme ça au milieu du truc. Je trouve ça absolument ridicule. Donc, au lieu de les mettre en droit, je les ai mis en long, vous voyez, les uns à la suite des autres. Et puis, il y avait des bouquins devant un peu, mais bon.
Bon, comme ça, ils sont là.
Ils sont là.
En ange gardien. Voilà. ils sont quand même près de vous. Je voulais qu'on écoute un extrait.
Ça vous fait rien de coudre des robes qui valent un bras, de venir bosser le samedi, tout ça pour être payé une misère?
C'est pas ça qui compte. C'est pas le coût d'une chose qui compte, mais sa valeur.
Vous mettez toute votre énergie dans votre boulot.
Un boulot? Mais de quoi tu parles d'un boulot? Ce que tu es en train d'apprendre, c'est un métier. Ça vaut tous les millions de la Terre. Un métier que tu pourras transmettre. C'est ça la vraie richesse.
Oui.
Un métier qu'on peut transmettre, c'est ça la vraie richesse. Elle est belle, cette phrase.
Ah oui, c'est formidable, ça.
Vous êtes d'accord avec ça?
Ah oui, tout à fait. Et c'est drôle parce que je m'aperçois que souvent, les jeunes, ils parlent d'un boulot. C'est un mot qui, voilà, oh, non, il faut que je fasse un boulot parce que... Et c'est vrai ce qu'elle dit, Esther. Alors, je ne sais pas comment toute cette jeune génération va l'entendre, va la comprendre. On ne sait pas, mais c'est vrai, la différence entre un boulot et un métier, c'est deux pôles, quoi.
Un métier qu'on peut transmettre, c'est un peu ce que vous avez fait aussi, avec
votre
fille.
Oui. Non, mais c'est vrai, je l'ai transmis... Malgré moi, parce que j'ai jamais rêvé ou espéré que vous savez, il y a souvent des personnes qui rêvent que leurs enfants soient le suivant, fassent la même chose qu'eux, etc.
Qui se projettent.
Moi, j'ai jamais pensé à ça, parce que déjà, quand ma fille m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, c'est un métier merveilleux, mais tu auras des grandes joies et des grandes déceptions. Il faut savoir tenir la barre, quoi, parce que Il y a du merveilleux, mais il y a aussi de l'épouvantable. Et je connais beaucoup d'acteurs qui sont des acteurs qui ont du talent, qui font des belles choses. Enfin, je sais qu'ils peuvent faire des belles choses et qui ne bossent pas du tout.
C'est peut-être ça, d'ailleurs, la meilleure des transmissions, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est d'être armé pour faire ce métier.
Ah oui, ça vraiment, c'est essentiel.
Vous aviez dit dans une interview, l'imagination que j'avais à 16 ans et qui me plaisait tant ne m'a jamais quittée. Vous avez beaucoup d'imagination ?
Un petit peu trop, même.
C'est vrai ?
Oui. D'abord, je rêve beaucoup. Quand je dis un peu trop, c'est parce que ça m'a rendu... J'avais un père qui était incroyablement distrait. J'ai essayé de lutter contre cette distraction. Ma mère l'était un peu aussi. Donc c'était... Et en réalité, je me suis rendu compte que je suis incroyablement distraite parce que je rêve. Parce que je rêve, parce que j'imagine, parce que je n'arrive pas à faire... Et donc, ça me joue des tours. Ça me joue des tours.
Parce que le personnage d'Esther, au contraire, on a l'impression qu'elle a plus vraiment de rêve.
On est très, très différentes. Et j'aime beaucoup jouer des personnages qui sont très différents de moi.
Est-ce que vous avez rencontré une Esther dans votre vie ?
Ça, je retournerai à la danse ou à des femmes qui ont consacré leur vie, des professeurs tout particulièrement, qui ont consacré leur vie à ce métier et qui, au bout du compte, n'ont pas eux-mêmes réussi à faire une... Enfin, oui, c'est... Mais bon, des Esther comme celle du film, non, pas particulièrement.
Dans Haute Couture, on dit que la mode a le pouvoir de fabriquer un peu de beauté pour réparer le monde. Est-ce que c'est pas pareil pour le cinéma, finalement ?
Je trouve que c'est une belle phrase. Est-ce que oui, peut-être. C'est-à-dire quand oui, c'est vrai que si on fait un film et si le film est plus plaît et fait du bien aux spectateurs et donc aux gens, c'est une bonne chose, quoi. On a tous besoin d'avoir des choses qui nous font du bien, qui nous réconfortent, qui nous donnent de l'espoir, qui nous fait rêver. C'est essentiel.
Et ben c'est le cas de Haute Couture. C'est vraiment un film qui fait du bien avec plein de personnages. Hein. Je ne les ai pas tous cités. Il y a Pascale Arbillot aussi.
Formidable actrice.
Oui, et qui travaille à vos côtés, qui est vraiment merveilleuse, très touchante, très douce.
C'est une femme tout aussi touchante et douce et intéressante.
Nathalie, vous avez déjà porté de la haute couture pour toutes ces cérémonies. Est-ce que vous aimez d'ailleurs ce passage obligé des tapis rouges, des photocalls ?
Je ne veux pas dire que je sois une fanade des photocalls et des tapis rouges, mais en même temps, quand on vient présenter un film qu'on aime et voilà, il faut jouer le jeu et puis ça peut être très amusant. Si on est avec une équipe avec laquelle on s'entend bien, c'est bien.
C'est la consécration, c'est l'aboutissement d'une belle aventure.
Oui. Enfin, je trouve que la consécration, c'est quand on nous demande de jouer dans un film, de tourner dans un film. Vous voyez, c'est ça, c'est pas fatalement la parade.
Je rappelle que dans Haute Couture, vous jouez cette couturière chef d'atelier. Et finalement, bon, c'est un film sur les dessous de la haute couture, mais c'est surtout un décorum. C'est plus un film sur la transmission et sur ce qu'on peut offrir à quelqu'un d'autre. C'est
absolument
ça qui est très beau dans le film.
Ouais, c'est ça qui m'a plu.
Alors, on va parler des films de votre vie. J'allais dire, qui vous a transmis déjà cet amour pour le cinéma ? Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui vous a fait découvrir le cinéma ?
Ah mais oui, parce que moi, je n'ai jamais pensé ou imaginé être une actrice de cinéma. Jamais. Je pensais au théâtre. Quand j'ai arrêté la danse et que j'ai voulu aller dans un cours d'art dramatique, c'était pour jouer sur scène. Et du reste, je vais rejouer bientôt sur scène parce que j'en ai vraiment envie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais et c'est en tournant La Nuit américaine, qui raconte un tournage de film, que subitement, ça m'a plu. Et puis, on m'a repéré. Et c'est Truffaut qui m'a fait aimer le cinéma. Autrement, je n'en ferais pas.
Un film qui vous fait rire ?
Oh ben, La Grande Vadrouille, par exemple.
Un classique.
Écoutez,
Louis
un classique.
De Funès.
Ah oui, Louis de Funès, moi, il me fera rire toujours et tout le temps, quoi, parce qu'il est merveilleux. Il met une telle énergie et une telle sincérité à jouer souvent les hypocrites. Il est fantastique. C'était un acteur fantastique. Et le tandem avec Bourville, c'était éblouissant.
On nous cite souvent La Grande Vadrouille dans cette émission et c'est Clovis Cornillac qui l'a cité aussi la semaine dernière. Je crois qu'on doit citer la semaine d'avant. Je pense qu'on est tous raccord avec La Grande Vadrouille.
Ah oui.
Est-ce que vous aimez aller au cinéma ? Est-ce que vous avez encore le temps aujourd'hui d'aller au cinéma ?
Oh ben heureusement. Oui, j'aime le cinéma, bien sûr.
Quelle séance ?
Souvent dans l'après-midi. En début d'après-midi.
C'est vrai, après le déjeuner.
Ouais. Mais enfin, ça peut être le matin, mais c'est pas le soir en général. Non, c'est dans la journée.
Plutôt seul ou accompagné ?
Ah non, accompagné.
Si je vous demande les films de votre vie, des films qui ont marqué votre vie, ça peut être des films dans lesquels vous avez joué.
Oh bah alors, La Nuit américaine. Parce que La Nuit américaine, j'ai tout découvert. J'ai découvert le jeu, de jouer. J'ai découvert les coulisses. J'ai découvert la technique, les rushs le soir, quand on voit ce qu'on a tourné la veille ou l'avant-veille, les costumes, les trucs qu'on fait pour donner l'impression qu'on a les yeux plus grands ou les cheveux plus longs, etc. Et tout. Enfin, j'ai tout découvert sur ce tournage.
Pour reparler de Haute Couture, je disais c'est un film sur la transmission. Qu'est-ce que justement vous seriez fier de transmettre à vos enfants et petits-enfants ?
De faire quelque chose qu'ils aiment avant tout et qui les rende heureux. Parce que souvent, on a des rêves comme ça. On dit tiens, je voudrais faire ça, etc. Et puis, on n'est pas bien. Il faut vraiment savoir choisir. Je pense que c'est très, très important. Je connais des personnes qui toute leur vie ont fait un métier qui les a fait vivre, mais ça les a pas vraiment rendus heureux ou épanouis. Et quand ils arrivent à la retraite, ils sont drôlement contents. Eh bien, c'est quand même un peu triste, si vous voulez. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont un boulot, quoi, comme on dit, qui bon, voilà. Mais c'est un grand luxe de pouvoir faire quelque chose qu'on aime vraiment
et de se lever le matin et de le faire avec joie.
Bonheur, ouais.
Merci beaucoup Nathalie Baye. Je rappelle que Haute Couture sera en salle mercredi prochain, le 10 novembre.
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous écoutez toujours Clap et vous faites bien. C'est parti pour notre dernière partie. Et pour m'épauler, j'ai à mes côtés Victor Bonnefoy du podcast Pardon le cinéma. Bonjour Victor.
Salut Laurie.
Et Franck Vallière, journaliste. Oui, c'était quoi cette voix grave? Wow.
Petite voix caverneuse. Quel bonheur de se retrouver.
Et oui, on est très heureux aussi de vous retrouver, Victor et Franck Vallière de Canal+.
Salut Laurie.
Allez.
Ouh là là.
Ils vont se foutre de moi pendant des semaines, ça va être terrible.
Je suis très bien entourée dans ce studio. Alors, comme chaque semaine, on fait un point chiffre avant d'aborder les sorties cinéma. Les vacances scolaires et le jour férié du 1er novembre ont permis aux salles françaises de recevoir plus de 4 millions de spectateurs la semaine dernière. Il n'y avait pas eu autant de monde dans les salles depuis l'apparition de la crise du Covid en mars 2020. Donc c'est quand même une excellente nouvelle pour le cinéma qui se porte très bien. En tête du box-office, Chassé croisé entre Venom et No Time to Die, qui a retrouvé la première place avec 600 000 entrées cette semaine. Ce qui veut dire que le nouveau James Bond cumule désormais 3 337 000 entrées en 4 semaines. C'est un beau score.
C'est gigantesque, c'est fou.
Et à la deuxième place, donc, Venom avec 487 000 tickets vendus, 1 163 000 entrées en 2 semaines. Enfin, en troisième position, c'est toujours Eiffel avec 350 000 entrées et plus d'un million. Ça y est, ils ont dépassé le million en 3 semaines d'exploitation. C'est très bien aussi, on est très contents pour eux. Alors, on passe au film à l'affiche ce week-end et à découvrir. Une semaine d'ailleurs avec pas mal de sorties. Il y a la comédie dont on parlait la semaine dernière en compagnie de Clovis Cornillac, Si on chantait. Et puis j'ai l'impression qu'il n'y a pas une semaine quand même en ce moment sans qu'on parle d'un film Marvel. On parlait de Venom, d'ailleurs Venom qui est sur la place, qui est sur la deuxième place du podium au box-office. Et cette semaine, le studio a sorti Les Éternels. Victor va nous en parler dans quelques instants, mais il fait la moue.
Non, mais c'est que en fait, tout le monde attendait beaucoup Les Éternels parce que c'était l'arrivée dans ce qu'on appelle le Marvel Cinematic Universe, le MCU, de Chloé Zhao. Chloé Zhao qui a quand même été récompensée aux derniers Oscars de la meilleure réalisatrice et du meilleur film pour son film Nomadland. Donc plein de gens qui d'habitude n'en ont pas grand-chose à faire de Marvel sont allés voir Les Éternels en disant « Oh oui, mais cette fois-ci, ce sera le grand film d'une grande réalisatrice !» Et non.
On en parle dans quelques instants. Juste un mot sur l'histoire des Éternels, donc avec Angelina Jolie ou encore Salma Hayek au casting. C'est une ligue de gardiens envoyée par le créateur de la vie sur Terre pour éliminer une espèce qui a échappé à son contrôle, qui s'appelle les déviants. Ce sont des monstres sanguinaires qui s'attaquent à la population. Et tout ça se passe en l'an 5000 avant Jésus-Christ.
Il y a 50, Thanos a fait disparaître la moitié de la population de l'univers. Mais les habitants de cette planète sont parvenus à ramener tout le monde d'un simple claquement de doigts. Ce brusque retour de la population a généré l'énergie nécessaire pour déclencher l'émergence.
Il nous reste combien de temps?
Nous avons 7 jours.
Il faut retrouver les autres.
Alors Victor Bonnefoy, on a compris que vous n'avez pas aimé.
C'est même pas que j'ai pas aimé, c'est que quelle déception en fait de voir que Chloé Zhao se retrouve dans cette super production qui dure quand même 2h40. J'ai quand même 2h40 de ma vie à offrir à quelque chose d'autre que 80% d'un film filmé tout le temps de la même manière, un champ contre champ, tout le temps filmé dans le même cadre. Où alors on a essayé de nous vendre, oh, regardez, il y a des grands décors, oh là là, Chloé Zhao va pouvoir sortir à l'extérieur. Oui, enfin elle va quand même mettre des bébêtes en CGI dégueulasses un peu partout. Et puis il y a une volonté mine de rien d'inclusivité que moi je défends et que je défendrai toujours, cette volonté d'une plus grande inclusivité dans le cinéma. Mais là, ça ressemble juste à une pub Benetton tellement c'est géré par l'impérialisme américain.
Il faut dire quand même que les précédents films de Chloé Zhao sont tous exceptionnels quand même.
Ah oui, non mais ça, il n'y a pas de problème. Mais là, littéralement...
Mais là, c'est un film de commande.
C'est ça, c'est un film qui coche des cases en permanence, qui coche les cases des passages bien sentis, des comédiens de Game of Thrones qui débarquent, de l'inclusivité faussement positive. C'est raté en tout point et qu'on essaye de me faire croire que c'est bien alors qu'il n'y a aucune narration dans ce film. Alors ouais. C'est censé être ça le grand film Marvel, et ben dis donc on est bien servi.
On va quand même écouter l'avis des spectateurs.
Mais oui.
Allez.
C'est un très bon film, il y a des longueurs, des moments où on s'ennuie un petit peu, vu que c'est une nouvelle phase donc il faut reposer plein de bases. Mais dans l'ensemble c'est un très bon film, moi j'ai bien aimé.
C'était un film bien construit, intéressant, le casting était solide. Et non, c'est très divertissant, on sent pas le temps passer en fait. Donc je pense que c'est un très bon Marvel.
Comme quoi, le public a toujours raison. Mais vous faites entendu. Partie du public, Victor,
oui.
Fois. Alors c'est un peu l'événement français cette semaine, le nouveau film de Jacques Audiard, sélectionné en compétition officielle au dernier festival de Cannes et qui bouleverse les salles. Un film en noir et blanc qui mélange plusieurs histoires, plusieurs destins qui s'entremêlent.
Je peux te poser une question? C'est quoi ta vie sentimentale?
Moi j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit.
quand vous êtes parti alors?
Pour m'installer à Paris.
Je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle intense.
Cool.
Alors Franck Vallière.
Très bon film d'Audiard, certes en noir et blanc, certes qui parle d'une génération qui s'attend à jouir de tout tout de suite et qui le réclame avec une insistance folle, mais au final, le film parle de la déception du fait de passer à côté de sa propre vie sous prétexte d'avoir osé demander tout et tout de suite. C'est un très grand Audiard qui, je pense, est en avance sur son temps.
Victor Bonnefoy.
Absolument passionné, absolument tombé en amour de ce film, au noir et blanc absolument sublime, aux comédiens qui me font ressentir le mal d'une génération qui se cherche, qui se perd dans ce Paris des Olympiades. Vraiment, je trouve le film touchant avec la musique de Ron qu'on a entendue dans l'extrait qui est absolument brillante, tout ça écrit par Céline Sciamma. Moi, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de l'année, les Olympiades. J'aime tous ces personnages, j'ai envie de traîner avec eux, j'ai envie de faire tout ce qu'ils font dans le film, mais avec eux un peu plus.
Et puis, il y a le talent d'Audiard de nous imprégner immédiatement. En 10 minutes, on est avec eux, alors que le contexte, on ne le connaît pas, ces gens-là sont très éloignés parfois de la moyenne française et on est avec eux, mais immédiatement c'est fascinant.
Ah, c'est ça, on a envie d'être tout nu dans l'appartement avec eux aussi.
Voilà. Oh bah écoutez, allez-y, hein, mettez-vous tout nu dans le studio.
Formidable.
Franck Vallière, un petit mot sur Burning Casablanca, un coup de cœur.
Oh là là, le Tarantino marocain, bah il est voilà. Là, on tient une petite sortie, mais exceptionnelle. Premier film d'un type qui a fait la Fémis et qui est survivant du Bataclan quand même en 2015. D'ailleurs, ça a induit des modifications de son scénario. Il y a des scènes de cauchemar qui empruntent autant au giallo que par exemple au film de Jodorowsky, mais alors je fais très très simple. Le pitch, un rocker sur le retour, héroïnomane, tombe sur une prostitute et ça vire en cacahuète, ça devient une espèce de Sailor et Lula, il y a du true romance, c'est au Maroc, ça en met plein la gueule au barbu, ça, c'est
il pro-féministe. Il va nous faire un infarctus, il est habité là.
Alors c'est certes très très long parce qu'il y a un rythme très, très foutraque, mais c'est filmé en 35 mm, en cinémascope. Waouh !
On y va alors.
Ah ouais, grave.
Et puis un mot quand même sur L'Albatros, le dernier film de Xavier Beauvois avec Jérémy Régnier dans le rôle d'un gendarme qui commet une bavure en voulant sauver la vie d'un paysan. C'est toujours intéressant, Xavier Beauvois, parce qu'il mélange des acteurs non professionnels et professionnels. Donc Jérémy Régnier, il fait tourner d'ailleurs sa propre femme et sa propre fille qui joue la femme et la fille du personnage interprété par Jérémy Régnier.
Qu'est-ce que tu fais avec un fusil? On va discuter, on va trouver une solution. Écoute-moi Julien, fais pas le con. Pose cette arme. Pense aux gens qui t'aiment. Julien, pose cette arme. J'ai sorti mon arme une seule fois. Je voulais le sauver. Je l'ai tué. J'ai l'impression que tout ce que je vis là, c'est comme si c'était pas réel.
C'est fort quand même.
C'est très fort. Alors c'est pas du tout naturaliste, mais on dépeint le quotidien d'un gendarme, donc un militaire, qui va commettre une grosse erreur. Et là, le film est en deux parties. C'est sublimement filmé. Alors Caroline Champetit n'était pas disponible pour le film de Beauvois. C'est un autre chef-op qui l'a remplacé. Le film est en deux parties. Et alors, je vous donnerai juste une toute petite idée de ce que ça, à quoi ça ressemble. Le film est produit par Sylvie Piala. Et alors, étrangement, il y a plein de choses qui rappellent, et je ne dirai pas quoi, Sous le soleil de Satan d'un certain Maurice. Voilà, allez-y, c'est fantastique.
Ouais, rien que pour ça, il faut aller le voir en salle. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Victor Bonnefoy, Franck Vallière. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Tout de suite, c'est William Lémergie. Restez à l'écoute d'Europe 1 et à bientôt.